Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici toujours dans nos Lectures en liberté pour la suite du récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Le temps était maussade. L'entrevue prit fin. Il fallut déjeuner ensemble. On descendit côte à côte l'escalier. Avant de pénétrer dans la salle à manger du Berghoff, Schuschnigg est frappé par un portrait de Bismarck. La paupière gauche du grand chancelier tombe inexorablement sur l'œil. Le regard est froid, désabusé. La peau paraît flasque. On entra dans la salle, on s'assit. Hitler au milieu de la table, le chancelier d'Autriche en face de lui. Le repas s'écoula normalement. Hitler semblait détendu, il fut même bavard. Dans un élan puéril, il raconta qu'à Hambourg, il allait faire bâtir le plus grand pont du monde. Puis il ajouta, incapable sans doute de se réfréner, qu'il y ferait bientôt construire le plus haut building et que les Américains verraient alors qu'en Allemagne on construit plus grand et bien mieux qu'aux États-Unis. Après quoi on passa au salon. Le café fut servi par de jeunes SS. Enfin, Hitler se retira, et le chancelier d'Autriche se mit aussitôt à fumer comme un sapeur. Les photographies que nous possédons de Schuschnigg nous montrent deux visages, un visage pincé, austère, et un autre plus timide, rentré, presque rêveur. Sur un célèbre cliché, il a les lèvres serrées, l'air perdu, avec dans le corps une sorte d'abandon, de chute. C'est en 1934, à Genève, dans ses appartements, que cette photographie fut prise. Schuschnigg se tient debout, inquiet peut-être. Il y a dans ses traits quelque chose de mou, d'indécis. On dirait qu'il tient à la main une feuille de papier, mais l'image est floue et une tache sombre mange le bas de la photo. Si l'on regarde attentivement, on remarque que le revers d'une poche de sa veste est froissé par son bras. Et puis, on aperçoit un étrange objet, une plante peut-être, qui fait à droite intrusion dans le cadre. Mais cette photographie, telle que je viens de la décrire, personne ne la connaît. Il faut aller à la Bibliothèque nationale de France, au département des estampes et de la photographie, pour la voir. Celle que nous connaissons a été coupée, recadrée. Ainsi, à part quelques sous-archivistes chargés de classer et d'entretenir les documents, personne n'a jamais vu le revers mal fermé de la poche de Schuschnigg, ni l'étrange objet, une plante ou je ne sais quoi, à droite de la photo, ni la feuille de papier. Une fois recadrée, la photographie donne une impression toute différente. Elle possède une sorte de signification officielle, de décence. Il a suffi de supprimer quelques millimètres insignifiants, un petit morceau de vérité, pour que le chancelier d'Autriche semble plus sérieux, moins ahuri que sur le cliché d'origine. Comme si le fait d'avoir refermé un peu le champ, effacé quelques éléments désordonnés en resserrant l'attention sur lui, conférait à Schuschnigg un peu de densité. Tel est l'art du récit que rien n'est innocent. Mais à présent, au Berghof, il ne saurait être question de densité ni de décence. Ici, il n'y a qu'un seul cadrage qui vaille, il n'y a qu'un art de convaincre qui vaille, il n'y a qu'une seule manière d'obtenir ce que l'on souhaite, la peur. Oui, ici, c'est la peur qui règne. Terminez les politesses allusives, les formes retenues de l'autorité, les apparences. Ici, le petit Junker tremble. Il n'en revient pas tout d'abord qu'on ose lui parler ainsi, Schöschnigg. Il le confiera, d'ailleurs un peu plus tard, à l'un de ses hommes. Il se sent injurié. Et pourtant, il ne s'en va pas. Il ne manifeste aucun mécontentement. Il fume. Il fume clope sur clope. De longues heures s'écoulent. Puis, vers 16h, Schöschnigg et son conseiller sont conviés à rejoindre Ribbentrop et von Papen dans une pièce attenante. On leur présente quelques articles d'un nouvel accord entre les deux pays précisant que ce sont les ultimes concessions possibles du fourreur. Mais qu'exige donc cet accord? Il exige, pour commencer, en une formule vide et sans grande portée, que l'Autriche et le Reich se consultent sur les questions internationales intéressant les deux parties. Il exige. Et c'est là que les choses se corsent. Que les idées nationales socialistes soient autorisées en Autriche et que Seyss Inquart, un nazi, soit nommé ministre de l'Intérieur avec les pleins pouvoirs. Ingérence prodigieuse. Il exige encore que le docteur Fischbock, un nazi notoire, soit lui aussi nommé au gouvernement. Il exige ensuite l'amnistie de tous les nazis emprisonnés en Autriche, criminels compris. Il exige que tous les fonctionnaires et officiers nationaux socialistes soient réintégrés dans leurs droits antérieurs. Il exige l'échange immédiat d'une centaine d'officiers entre les deux armées et la nomination d'un nazi comme ministre autrichien de la guerre. Enfin, il exige, ultime affront, le renvoi des directeurs de la propagande autrichienne. Ces mesures devront être effectives sous 8 jours, en échange de quoi, sublime concession, l'Allemagne réaffirme l'indépendance de l'Autriche et son attachement à la Convention de juillet 1936, qui vient d'être vidée de son contenu. Puis, pour finir, formule inouïe, après ce que l'on vient de lire, l'Allemagne renonce à toute immixtion dans la politique intérieure de l'Autriche. On croit rêver. La discussion s'engage alors et Schöschnigg tente d'atténuer les exigences allemandes. Mais il veut avant tout sauver la face. On remue des points de détail. On dirait des crapauds autour d'une mare qui se passerait le même œil et la même dent et s'en servirait tour à tour. Enfin, Ribbentrop accepte d'amender 3 articles, introduisant, après de laborieuses tractations, des changements sans importance. Soudain, la discussion est interrompue. Hitler fait appeler Schöschnigg. Le bureau baigne dans la lumière des lampes. Hitler le parcourt à grands pas. De nouveau, le chancelier autrichien éprouve un sentiment de gêne. Et aussitôt qu'il s'assied, Hitler l'agresse, lui annonçant qu'il consent à une ultime tentative de conciliation. « Voilà le projet, dit-il. Il n'y aura pas de négociation. Je n'y changerai pas une virgule. Ou bien vous signez, ou bien... il n'y a pas lieu de poursuivre nos entretiens. Je prendrai ma décision dans la nuit. » Le fourreur a son air le plus grave et le plus sinistre. À présent, le chancelier Schöschnigg est face à son moment d'opprobre ou de grâce. Va-t-il céder à une machination médiocre et accepter l'ultimatum ? Le corps est un instrument de jouissance. Celui d'Adolf Hitler s'agite éperdument. Il est raide comme un automate et virulent comme un crachat. Le corps d'Hitler dut pénétrer les rêves et les consciences. On croit le retrouver dans les ombres du temps, sur les murs des prisons, rampant sous les lits de sangle, partout où les hommes ont gravé les silhouettes qui les hantent. Ainsi, peut-être qu'au moment où Hitler jette à la tête de Schöschnigg son ultimatum, au moment où le sort du monde, à travers les coordonnées capricieuses du temps et de l'espace, se retrouve un instant, un seul instant, entre les mains de Kurt von Schöschnigg, à quelques centaines de kilomètres de là, dans son asile de Balègue, Louis Souther était peut-être en train de dessiner avec les doigts sur une nappe en papier une de ses danses obscures. Des pantins hideux et terribles s'agitent à l'horizon du monde où roule un soleil noir. Ils courent et fuient en tous sens, surgissant de la brume, squelettes, fantômes, pauvres Souther. Il avait déjà passé plus de 15 ans dans son asile, 15 ans à peindre ses angoisses sur de mauvais bouts de papier, des enveloppes usagées dérobées à la corbeille. Et à cet instant, où le destin de l'Europe se joue au Berghof, ces petits personnages obscurs, se tordant comme des fils de fer, me semblent un présage. Souther était revenu d'un long séjour, loin de chez lui, très loin, à l'étranger, l'autre bout du monde, dans un état de délabrement inquiétant. Après quoi il avait vécu d'expédient. Musicien pourté dansant durant la saison touristique, une réputation de folie avait commencé à le suivre partout où il allait. Dans son visage s'imprima une mélancolie profonde. Et il fut interné à l'asile de Balègue. De temps en temps, il fuguait. On le ramenait là-bas, décharné, à moitié mort de froid. En haut, dans sa chambre, il entassait dessin sur dessin, une pile monstrueuse de croquis représentant des êtres noirs, difformes, de grands infirmes palpitants. Son propre corps était si maigre, fatigué par de longues marches dans la campagne, ses joues étaient évidées, caverneuses, il n'avait plus de dents. Enfin, ne parvenant plus à tenir le pinceau ou la plume pour dessiner à cause de l'arthrose qui déformait ses mains, presque aveugle, il se mit à peindre avec les doigts, juste en les trempant dans l'encre, vers 1937.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux Lily Marley, tous deux Lily Marley. Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions ingénument, joue contre joue, bien des serments, tous deux Lily Marley, tous deux. Le temps passe vite lorsque l'on est deux, hélas on se quitte porte, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets lorsqu'il fallait nous séparer? Dis-moi, Lili Marlène, dis-moi, Lili Marlène. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und stich sie noch davor. So wohl wir da uns wiedersehen, bei der Laterne wohl wir stehen, wie einst Lili Marlène, wie einst Lili Marlène. La vieille lanterne s'allume toujours devant la caserne lorsque finit le jour. Mais tout me paraît étranger, aurais-je donc beaucoup changé? Dis-moi, Lili Marlène, dis-moi, Lili Marlène. Cette tendre histoire de nos chers 20 ans chante en ma mémoire malgré les jours, les ans. Il me semble entendre ton pas et je te serre entre mes bras. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène. Wie einst Lili Marlène, wie einst Lili Marlène.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et donc, après la musique, nous revenons au récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Souter avait près de 70 ans. Il fit alors ses plus belles œuvres. Il se mit à peindre des cohortes de silhouettes noires agitées, frénétiques. On dirait des grappes de sang, des vols de sauterelles. Et cette agitation forcenée vivait dans l'esprit de Louis Souter une forme de hantise qui le terrifiait. Mais si on songe à ce qui se passait en Europe autour de lui pendant ses longues années de réclusion à Balègue, dans le Jura, on peut penser que ce long ruisseau de corps noirs, tordus, souffrant et gesticulant, que ces colliers de cadavres augurent quelque chose. On dirait que le pauvre Souter, enfermé dans son délire sans le savoir, peut-être filme avec les doigts la lente agonie du monde qui l'entoure. On dirait que le vieux Souter fait défiler le monde entier, les spectres du monde entier derrière un pauvre corbillard. Tout se transforme en flammes et en épaisse fumée. Il trempe ses doigts tordus dans le petit pot d'encre et il nous livre la vérité morte de son temps. Une grande danse macabre. Au Berghoff, on était bien loin de Louis Souter, bien loin de sa timidité étrange, bien loin du réfectoire de Balègue. On y menait une besogne plus basse. À cette minute où Louis Souter trempait peut-être ses doigts meurtris dans ce pot d'encre noire, Schöschnigg regarda fixement Adolf Hitler. Il écrira plus tard dans son livre de souvenirs qu'Hitler exerçait sur les hommes une emprise magique et il ajoute « Le fourreur attirait les autres à lui par une force magnétique puis les repoussait avec une telle violence qu'un abîme s'ouvrait alors que rien ne pouvait combler. » On voit qu'il n'est pas avare d'explications ésotériques. Cela justifie ses faiblesses. Le chancelier du Reich est un être surnaturel, celui que la propagande de Goebbels voudrait nous montrer, créature chimérique, effrayante, inspirée. Et finalement, Schöschnigg céda. Il fit même pire. Il bredouilla. Puis, il déclara qu'il était prêt à signer, mais il émit une objection la plus timide et la plus aboulique qui soit, la plus veule aussi. « Je vous ferai seulement remarquer, » ajouta-t-il, dans un mélange perceptible de malice et de faiblesse qui dut le défigurer, « que cette signature ne vous avance à rien. » À cet instant, il dut savourer la surprise d'Hitler. Il dut savourer la seule petite étincelle de supériorité qu'il put dérober au destin sur Adolf Hitler. Oui, il dut jouir. Lui aussi, mais d'une autre manière, comme un escargot peut-être, de ses cornes molles. Oui, il dut jouir. Le silence après sa réplique dura une éternité. Schöschnigg éprouva sa part invincible, minuscule, et il se tortilla sur son siège. Hitler eut un regard interloqué. Qu'était-il en train de lui dire ? D'après notre constitution, renchérit alors Schöschnigg d'un ton doctoral, c'est la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire le président de la République, qui nomme les membres du gouvernement, de même que l'amnistie est sa prérogative. C'était donc cela. Il ne se contentait pas de céder à Adolf Hitler, il lui fallait encore se retrancher derrière un autre. Lui, le petit autocrate, voici que soudain, au moment où son pouvoir devenait empoisonné, il acceptait de le partager. Mais le plus étrange fut dans la réaction d'Hitler. Il bredouilla à son tour. « Alors, vous avez le droit ?» comme s'il ne comprenait pas bien ce qui lui arrivait. Les objections de droit constitutionnel le dépassaient. Et lui, qui pour servir sa propagande tenait à conserver les apparences, il dut se sentir brusquement désorienté. Le droit constitutionnel est comme les mathématiques, on ne peut pas tricher. Il bredouilla encore « Vous devez... » Et Schöschnigg dut alors véritablement jouir de sa victoire. Enfin, il le tenait. Avec son droit, il le tenait. Avec ses études de droit, avec sa licence, ça y est. Le brillant avocat tenait le petit agitateur ignorant. Oui, le droit constitutionnel existe. Et ce n'est pas pour les termites ou les souriceaux, non, c'est pour les chanceliers, les véritables hommes d'État, car une norme constitutionnelle, monsieur, vous barre la route aussi puissamment qu'un tronc d'arbre ou qu'un barrage de police. C'est alors qu'Hitler, dans un état d'excitation extrême, ouvrit brutalement la porte de son bureau et hurla dans le vestibule. « Général Keitel !» Puis, se tournant vers Schöschnigg, il lui lança « Je vous ferai rappeler plus tard. » Schöschnigg sortit et la porte se referma. Au procès de Nuremberg, le général Keitel fit le récit de la scène qui suivit. Il en fut l'unique témoin. Lorsque le général entra dans son bureau, Hitler lui demanda simplement de s'asseoir et s'assit à son tour. Derrière les mystérieuses portes de bois, le fourreur lui déclara qu'il n'avait rien de particulier à lui dire, puis resta un moment immobile, muet. Personne ne bougeait plus. Hitler était absorbé par ses pensées et Keitel se tenait assis à côté de lui sans rien dire. C'est que le chancelier voyait en Keitel un pion, un simple pion, rien de plus, et il l'utilisait ainsi. Voilà pourquoi, si curieux que cela puisse paraître, au cours des longues minutes que dura cette consultation, il ne se passa rien, strictement rien. C'est du moins ce qu'en dit Keitel. Pendant ce temps, Schöschnigg et son conseiller craignent le pire, ils envisagent même leur arrestation. 45 minutes s'écoulent. Avec Ribbentrop Et Von Papen, il continue à discuter machinalement des clauses de l'accord. Mais à quoi bon, puisque Hitler a déclaré qu'il n'en changerait pas une virgule. Ce doit être un moyen pour Schuschnigg de se rassurer. Il faut à tout prix que la situation ait l'air la plus normale du monde. Il continue donc à faire comme s'il s'agissait d'une véritable conférence entre chefs d'État, comme s'il était encore le représentant d'un pays souverain. Mais, en réalité, il évite seulement de donner à sa situation pénible un air officiel qui la rendrait irrémédiable. Enfin, Hitler fait rappeler Kurt von Schuschnigg. Et là, mystère de l'art de plaire, où l'on souffle le chaud après le froid, où la tonalité change d'un acte à l'autre, les ronces ont soudain disparu. Je me suis décidé pour la première fois de ma vie à revenir sur une décision prise, lance Adolf Hitler, comme s'il accordait un immense privilège. À cet instant, peut-être, Hitler sourit. Lorsque les gangsters ou les fous furieux sourient, il est difficile de leur résister. On veut en finir au plus vite avec la source de ses malheurs. On veut la paix. Et puis, entre deux épisodes de torture morale, un sourire possède sans doute un charme particulier, comme une éclaircie. « Seulement, je vous le répète, » ajouta Hitler, mêlant soudain la gravité à la confidence. « C'est la toute dernière tentative. J'attends l'exécution de cet accord d'ici 3 jours. Et là ?» Tandis que non seulement rien n'est changé, que même les modifications de détails obtenues ne seront pas prises en compte et que le délai d'expiration de l'ultimatum vient d'être sans justification raccourci de 5 jours, Schuschnigg accepte sans broncher. À bout de force, comme s'il avait obtenu une concession, il se range à un accord plus calamiteux que le premier. Une fois les documents partis au secrétariat, la conversation se poursuivit aimablement. Hitler appelait à présent Schuschnigg « Monsieur le chancelier », ce qui était un comble. Enfin, on signa les exemplaires dactylographiés et le chancelier du Reich proposa à Schuschnigg et à son conseiller de rester souper. Ils déclinèrent poliment l'invitation. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la lecture de ce récit que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.